Eh bien, mes amis, dans cette matinée du 5 août, nous allons étudier dans l'épître aux Romains la vie nouvelle ou la délivrance du péché. Et je vais demander de lire depuis le chapitre 5, verset 12, au chapitre 6, verset 23. Nous voulons prier. Ô Dieu notre Père, ces quelques instants que nous passons ensemble autour de ta parole, nous désirons qu'ils soient pleinement bénis. Et nous voulons te supplier, toi qui, sur le chemin d'Emmaüs, expliquais à ses disciples et qui s'en allaient loin de Jérusalem toutes les choses qui te concernait dans les Écritures, nous te demandons d'ouvrir aussi nos cœurs et de nous donner l'intelligence pour saisir tes pensées. Nous croyons que tu veux nous faire du bien et nous te demandons que ce matin, nos cœurs brûlent comme ceux des disciples qui disaient « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand le Seigneur nous expliquait en chemin les Écritures ?» Fais-nous disparaître nous-mêmes pour que toi seul tu parles et que tu nous enseignes dans ton intonation, avec ta douceur, avec ton support, avec tout ton amour, mais aussi avec ta vérité, car ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par tes vertus. Amen. La vie nouvelle ou la délivrance du péché. Hier, nous avons vu comment l'homme pécheur était justifié par la foi et non par des œuvres de loi. Cette justification, qui est l'œuvre parfaite du Christ à la croix, nous place, par la résurrection de Jésus, dans un nouvel état devant Dieu, un état complètement nouveau. Nous entrons dans ce monde né de la chair. Et ce qui est né de la chair est chair. Mais nous entrons dans le royaume de Dieu par une nouvelle naissance qui vient de l'action de la parole et du Saint-Esprit. Et ce qui est né de l'Esprit, alors, est Esprit. Par la justification que nous avons en Jésus-Christ, nous avons donc, comme nous l'avons vu hier, la paix avec Dieu quant à tout notre passé. C'est ainsi que commence le chapitre 5. Quant à notre état présent, nous le rappelons, nous sommes dans sa grâce. Nous avons trouvé accès à cette grâce dans laquelle nous sommes, ou selon une autre version, dans laquelle nous demeurons fermes. Vous ne devez pas vous laisser ébranler. Vous êtes maintenant dans la grâce de Dieu et elle est pleinement suffisante pour vous amener à un salut complet, à un salut total. Nous avons vu comment Dieu a agi dans la vie d'Abraham et il agira dans votre vie de la même manière. L'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, disait « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Christ. C'est lui qui poursuivra son œuvre en vous, de sorte que vous n'avez qu'à vous laisser faire, non pas essayer de faire, mais de vous laisser faire. Pour moi, c'est la grande leçon de Marie, la mère bénie de notre Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. qu'il me soit fait selon ta parole. Non pas qu'est-ce que je vais faire, mais je me laisse faire par toi, Seigneur. Nous sommes dans sa grâce. Et quant à notre avenir, nous l'avons vu, nous avons devant nous la gloire, et je voudrais que le Saint-Esprit puisse vous donner un peu cette vision de ce qu'est la gloire. La gloire. La gloire de Dieu. Comme ça nous arracherait aux visions de ce monde, comme ça nous recréerait, comme nous serions rebâtis, nous des démolis. Nous serions rebâtis par la vision de cette gloire. Abraham avait cette vision de la cité vers laquelle il se rendait. La cité dont Dieu est l'architecte et le créateur. Il ne pensait pas à la caverne de Macpéla où il avait déposé le corps de Sarah, sa bien-aimée. Et où lui-même, il le savait, serait enseveli par Isaac et Ismaël, ses fils. Ce n'était pas la caverne de Macpéla, ce n'était pas un tombeau qu'il avait sous les yeux. Il avait la cité du Dieu vivant, où se trouvent déjà les esprits des justes consommés, attendant l'heure glorieuse de la résurrection où ils revêtiront un corps incorruptible. Est-ce que nous avons quelquefois cette vision de la maison du Père? Est-ce que nous la visitons parfois? Est-ce que nous connaissons ces aimables demeures et ces places que le Seigneur, dans son amour, nous a préparé et qu'il nous a acquis au prix de son sacrifice à la croix. Il a payé bien cher pour que nous ayons une place dans le ciel. Et vous ne l'occuperiez pas? Vous pensez que le Seigneur vous a appelé, vous a invité pour ne pas vous recevoir après? Laissez-vous revêtir de la robe de noces. Elle vous est donnée, c'est sa justice qui va vous revêtir. Mais n'essayez pas d'entrer sans avoir revêtu cette robe de noces. Car alors, il n'y a pas pour vous de possibilité de rester dans la salle. Ami, comment es-tu entré ici sans avoir revêtu la robe de noces, cette robe qui était donnée lorsque Seigneur important invitait des gens à un festin, sachant bien que tous n'étaient pas des riches. Il avait toute une garde-robe et on revêtait les invités de cette robe. C'est quelque chose de magnifique. Le Seigneur vous a invité, mais il ne veut pas vous recevoir dans vos alliances. Laissez-les au vestibule et revêtez la robe de noces. Et alors, vous serez dans la joie du Seigneur. Nous nous glorifions donc dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mais non seulement cela, en attendant, nous connaissons des tribulations, avons-nous vu. Mais ces dernières, loin de nous nuire, produisent quoi? Tout ce que nous avons besoin pour vivre sur la terre. La patience. L'expérience. Ah, faire l'expérience que Dieu est vrai. Qu'il est fidèle. Mes amis, je serai un menteur après 50 ans de vie avec le Seigneur si je ne témoignais pas qu'il est d'une fidélité absolue. Moi, j'ai été infidèle. Que de fois. Mais lui m'est resté fidèle. Est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève pas? Est-ce qu'on se détourne et qu'on ne revient pas? Mes amis, reprenez courage. Si même vous êtes tombés, il n'est pas nécessaire que vous restiez par terre.
Laissez-vous relever par sa main puissante. Si vous vous êtes détourné, ne voyez-vous pas le bon berger qui vous cherche? Il avait trouvé une brebis perdue, puis maintenant il voit qu'elle s'égare. Eh bien, lui cherche à ramener la brebis égarée. Vous me direz, mais moi, je ne suis pas seulement égaré, mais je suis blessé, blessé à mort. Bien, le bon berger va poncer la brebis blessée. Puis vous me direz, moi, c'est encore pire, je suis malade à la mort. Bien, la brebis malade, il la prendra sur ses propres épaules et il la portera à la bergerie. Laissez-vous porter finalement. N'essayez pas d'aller jusqu'au bout. Vous-même, vous ne pouvez pas. Cessez vos luttes vaines. Jetez-vous dans ses bras. L'expérience dans la tribulation, c'est vrai qu'il ne nous laisse pas seuls. C'est vrai qu'avec Jésus, il n'y a jamais d'impasse parce qu'il est la porte. On croit être arrivé à un cul-de-sac, mais si Jésus est là, c'est la porte qui débouche sur l'espérance. Car après l'expérience, il y a l'espérance. Et une espérance qui ne confond point. C'est tellement merveilleux. Alors que tant de gens se suicident, que tant de gens baptisés sont pratiquement sans Dieu et sans espérance, quand on est au Seigneur, il y a l'espérance, une espérance qui ne confond point. Pour quelle raison? Parce que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. Comment? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Non pas qu'on a obtenu par nos mérites, parce qu'on était assez pieux, assez religieux, mais ce Saint-Esprit nous a été donné par sa grâce. C'est une promesse du Père. C'est une promesse du Fils. Quand je serai élevé dans la gloire, je vous enverrai la promesse du Père. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez rendus capables de témoigner pour moi. Et vous serez mes témoins, non pas seulement à Jérusalem, et dans la Judée, et dans la Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Être témoin, ça veut dire aller jusqu'au martyr. Un témoin, c'est un martyr. Être martyr, c'est avoir ce visage d'Étienne, qui regardant vers le ciel alors qu'on le tuait, rayonnait comme un ange, comme le visage d'un ange. Que voyait-il, les pierres? Non, il voyait le ciel ouvert. Et Jésus. Jésus qui avait rempli son cœur et qui lui avait permis de parler avec tant de force, de puissance, de vérité, devant une foule hostile, une foule religieuse. Cette foule qui avait aussi dit « Hôte, hôte, crucifie-le ». Il savait bien que le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Et son maître ne l'avait pas trompé. Quand Jésus demandait aux gens de le suivre, ou qu'il voyait des gens voulant le suivre, il leur disait « Attention, hein, vous voulez me suivre ? Prenez votre croix et suivez-moi. » Il vous arrivera ce qui m'est arrivé. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni l'envoyé au-dessus de celui qui l'a envoyé. Il suffit, est-ce que ça nous suffit, d'être comme notre maître. Et cette crucifixion, ce n'est pas de la littérature. Cette crucifixion, c'est une réalité. Les clous qui ont percé les mains du Seigneur percent les nôtres. Les clous qui ont attaché ses pieds à la croix attachent les nôtres à la croix. On ne peut plus marcher comme on marchait. On ne peut plus agir comme on agissait si nous sommes décloués. Mais il semble bien que ceux qui se réclament de Jésus sont des décloués. aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un cloué, un crucifié ou un décloué? Oh, il n'y a qu'un clou qui me tient encore. Pantin. Pantin évangélique. Avec toutes nos connaissances. C'est tellement vrai qu'on en arrive à faire des guignols évangéliques et à représenter des scènes bibliques par des guignols, des gens complètement caricaturés. Puis on applaudit cela. Aujourd'hui, on est tellement dépourvu de sens, on a perdu le bon sens. Tout est permis. On chante, on édite des recueils de cantiques. Qu'est-ce que Dieu doit penser de toute cette comédie, de tout ce carnaval religieux? Jésus disait, moi je ne fais que ce que j'ai vu faire par mon Père. Je ne dis que ce que j'ai entendu dire par mon Père. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et cet amour, comment Dieu nous l'a-t-il témoigné? Jésus est mort pour des impies. Et nous avons lu que pour un juste, quelqu'un pourrait se résoudre à mourir, tandis que l'amour infini de Dieu envers nous s'est manifesté dans le grand sacrifice du calvaire en faveur du misérable pécheur. Et alors, quelles sont les bénédictions qui en résultent de ce sacrifice? Bien, la colère à venir, elle est éteinte pour nous dans le sang de la victime. Notre réconciliation actuelle est le garant de notre salut éternel. Vous êtes réconciliés avec Dieu actuellement par la mort de Jésus-Christ et lui-même étant ressuscité et ne pouvant plus mourir, notre réconciliation actuelle est le gage de notre salut éternel. C'est pourquoi le doute ne doit plus habiter vos cœurs. Nous possédons donc en Dieu une sainte joie. Est-ce que nous avons cette joie? Une sainte joie par notre Sauveur. Et c'est Dieu qui est notre gloire. Nous nous glorifions en Dieu. Que le Saint-Esprit nous montre tout ce que cela veut dire. Nous nous glorifions en Dieu. Est-ce que c'est votre Père céleste, votre sujet de gloire? Oh, si vous saviez quel Père je possède! Quel enfant heureux je suis! Être enfant de Dieu! Être héritier de Dieu, qui a fait toutes choses! Être co-héritier de Christ! Mais si vous réfléchissez un peu, ce ne sont pas des mots, ce sont des réalités! Vous êtes enfant de Dieu, et nous le sommes! Par la nouvelle naissance, nous sommes introduits dans une relation avec Dieu qui ne peut pas être brisée. La relation d'enfant est la seule qui ne peut pas être brisée. Des relations d'affaires, des relations commerciales, des relations dans un club, tout cela peut être brisé. Mais la relation d'enfant avec le Père ne peut pas être rompue. L'enfant peut désobéir. L'enfant peut attrister son père. Il reste l'enfant de son père. C'est ça qui est merveilleux. Plus de colère pour nous. Alors nous nous glorifions en Dieu. Mes amis, j'avais l'impression hier soir que dans les jours précédents, la parole n'avait pas eu accès dans vos cœurs, dans plusieurs cœurs, même de chrétiens avancés, spirituellement. Et Jésus disait, oui, c'est vrai, ma parole n'a pas d'ouverture, n'a pas d'entrée dans vos cœurs. Vous en savez tellement. Ça ne vous dit plus rien. Ce ne sont pas mes paroles, ce n'est pas la manière dont j'expose cette parole qui doit retenir votre attention finalement. Racine, c'est souterrain. C'est pas ça que vous devez regarder. C'est pas ça qui doit vous rester. Ce qui doit vous rester, c'est la parole. Et vous l'avez, cette parole. Et ma seule confiance, c'est que je n'ai pas parlé autrement que ce que Dieu dit dans l'Écriture. Alors, est-ce que cette parole aura accès auprès de vous? Ou bien est-ce que vous êtes déjà tellement endurci? Oh oui, j'y crois de tout mon cœur, toutes ces vérités, je les connais. Mais ça me laisse maintenant, quand je les entends de nouveau, ça me laisse froid, ça me laisse indifférent. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, mon frère, ma sœur, s'il en est ainsi. Et demande au Seigneur de t'éclairer, pour que tu ne perdes pas la bénédiction que le Seigneur voulait te donner dans ce temps, qui pour moi est toujours le dernier. Ne vous figurez pas plus longtemps qu'il y aura un 13e temps, Mahanaïm. Nous sommes au dernier jour et nous ne comptons pas sur l'année prochaine. Et du reste, qui dit que nous y serons l'année prochaine? Pensez à Francine, qui voulait faire tous les temps et qui est peut-être à la porte du ciel. Elle n'est pas malheureuse. Entrez bientôt dans la certitude de la résurrection. Mais il faut alors que ces vérités soient des réalités. Il ne faut pas que ce soit des idées. Parce qu'alors, on est effrayé par la mort. De loin, on l'auréole, la mort. On est prêt. Oh oui. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, Seigneur. On chante comme des oracles. Elle est là, la mort. Elle vient. Quel est ton visage? Je sais que mon père, qui a tellement attendu la venue du Seigneur et qui a dû mourir, il n'a pas vu la mort. Du témoignage même de ses infirmières, il n'a pas vu la mort. Jésus l'avait dit, celui qui croit en moi ne verra pas la mort. Il a vu Jésus. Je me souviendrai toujours aussi du départ de mon grand-père. Il n'a pas vu la mort. 90 ans. Converti à 75 ans. Il a été un alcoolique jusque-là. Un esclave du tabac. Libéré complètement de l'alcool et du tabac à 75 ans. Ne venez pas nous dire que vous avez des habitudes dont vous ne pouvez plus vous défaire. La puissance de Dieu nous libère de tout ça. Et j'avais le privilège de l'assister au moment de son départ, ce départ lumineux. Ce vieillard de 90 ans qui se lève de son lit, qui tend les bras vers le ciel, son visage irradié d'une lumière surnaturelle qui est restée sur lui. Comme ce fut le cas, paraît-il, pour son fils, mon père. Qui jusque dans son cercueil irradiait ce qu'il avait vu. Ça vaut la peine d'attendre le Seigneur pour ne pas voir la mort, ce qui est pour tant d'hommes le roi des épouvantements. C'est plus le roi des épouvantements, ce n'est plus qu'une servante. Pour aller plus vite vers le Seigneur. Alors, dès le verset 12 du chapitre 5 jusqu'à la fin du chapitre 8, l'apôtre traite la question du péché, non plus des fautes personnelles, de la culpabilité de l'homme et du pardon, comme nous l'avons vu, mais il parle du péché au singulier, du péché comme tel, de l'état de l'homme dans la chair. Nous naissons pécheurs. Nous avons, en entrant dans ce monde, une nature pécheresse. Nous n'en pouvons rien, mais nous naissons avec cette nature. Et c'est très frappant de voir un petit enfant, un bébé, il semble bien qu'il sait dire non avant de dire oui. Qui montre déjà cette révolte dans l'enfance. Alors, il n'est plus question de faute au pluriel que nous avons commise, mais de la source de ces fautes, de la source d'où l'eau sale a coulé. Il n'est plus question des fruits que sont les péchés, mais il est question de l'arbre qui les produit, ou si vous voulez, de la racine. Et alors, quand il s'agit du péché, il peut y avoir, quand il s'agit des péchés, pardon, il peut y avoir une différence dans la grandeur de la faute et de la responsabilité. Mais pour ce qui est du péché au singulier, nous sommes tous de la même nature. Et l'apôtre parle des origines des deux natures. Il y a deux chefs de deux familles, famille d'Adam et la famille de Christ. Oui, quand il est question des péchés au pluriel, vous faites des distinctions. Il y en a même qui appellent leurs péchés des péchés mignons. Vous les aimez, hein? Moi, j'ai mon péché mignon. Puis vous le caressez, vous le cajolez. Puis vous êtes étonné que la vie spirituelle, la plénitude que le Seigneur voudrait vous donner, vous ne la connaissiez pas. Mais vous tolérez dans vos vies vos péchés mignons. Puis il n'y en a pas qu'un. Comme je l'ai dit souvent dans ce lieu, ce ne sont peut-être plus des grosses chaînes qui vous lient, mais seulement un fil de soie, pour employer une expression de Thérèse d'Avila, un fil de soie qui empêche votre épanouissement spirituel. Alors demandez au Seigneur qu'il coupe ce fil de soie, pour que vous ayez une pleine libération. Quand il est question des péchés, donc, il y a degrés de responsabilité différents. Il y a des péchés qui semblent plus graves que d'autres. Mais quand il est question du péché de la source, nous sommes tous les mêmes. Quant à notre nature, il est dit, nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés. Mais évidemment, vous me direz qu'il y a quand même aussi des différences. Oui, dans le degré de décomposition. Mais un mort, c'est un mort. Hein? Ah, les premiers jours, on l'embrasse encore. Ou le premier jour. Suivant le pays où l'on se trouve. Mais en Israël, vous vous souvenez, on enterre les gens le même jour. On meurt le matin et le soir, on est déjà dans la tombe. La jeune fille de Jaïrus, elle était encore dans son lit, mais elle était bien morte. Hein? On se riait de Jésus quand il disait, elle dort, je vais pour la réveiller. Elle était morte, bien morte. Mais le fils de la veuve de Naïm, qui était déjà sur le chemin du cimetière, est-ce qu'il était plus mort que la fille de 12 ans? Le fils de la veuve, son état était déjà, peut-être, s'en allait vers la décomposition. Puis alors Lazare, ah lui alors il était bien mort, il était depuis 4 jours, puis ça se sentait déjà. La cuisinière qui avait le nez fin, celle qui préparait les mets du Seigneur, elle a tout de suite senti cela. Seigneur, il sent déjà. Alors, est-ce que Lazare était plus mort que la jeune fille? Est-ce qu'il a fallu plus de puissance au Seigneur pour appeler Lazare hors du sépulcre qu'il n'y en a fallu pour ressusciter la fille de Jaïrus? C'est la même puissance. Le prince de la vie en face de la mort, mais il donne à tous la vie. Alors ne doutez pas, si même vous vous dites, mais moi je suis vraiment comme un Lazare, la pierre des habitudes est roulée sur moi, je croupis déjà parmi les vers, voilà mon état. Écoutez la voix du Seigneur, sors dehors. Vous venez là, avec vos mains encore dans les bandelettes liées, déliez-le, dit Jésus, laissez-le aller. Est-ce qu'il y aura des délivrances aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura dans ce camp des gens qui seront libérés de leurs bandelettes? Lazare sort dehors. Déliez-le, laissez-le aller. C'est le Seigneur qui ressuscite. Mais peut-être que les disciples peuvent délier le mort qui vit de nouveau de ses bandelettes. Est-ce que la nature d'un Canadien anglais est meilleure que la nature d'un Canadien français? Est-ce que la nature des Suisses est meilleure que la nature des Canadiens? Alors c'est que les Suisses ne se connaissent pas. Ce qui est né de la chair est chair. Chair jaune, chair noire, chair blanche, c'est toute la chair. Quant à notre nature, nous sommes tous les mêmes. Et alors donc, nous revenons à ces deux chefs de famille, Adam et Christ. Et c'est pour cette raison que dans cette partie de l'Épître, depuis le verset 12 du chapitre 5, il n'est pas dit que le Christ est mort pour nos péchés, mais qu'il est mort, vous avez vu la nuance, au péché. Notez bien cela. Jusque-là, il était mort pour nos péchés. C'est un aspect de la vérité. C'est un aspect du sacrifice du Christ. Mais ensuite, il est dit qu'il est mort au péché, au singulier. Chapitre 6, verset 10. Alors, nous ne trouvons pas, dans les versets que vous venez d'étudier, nous ne trouvons pas là ce que nous avons fait, mais nous trouvons ce que nous sommes. Vous le comprenez ? Depuis cette portion, Dieu nous montre par son esprit, par l'instrument qu'est Paul, non pas ce que nous avons fait, on l'a vu avant, ce que nous avons fait dans le chapitre premier, ce que nous pouvons être capables de faire, hein, mais maintenant il nous montre ce que nous sommes, par nature. Alors on peut être pardonné de ce que nous avons fait, mais comment être délivré de ce que nous sommes? C'est là la grande question. Est-ce que vous pouvez vous-même vous transformer? Est-ce que vous pouvez vous-même vous changer? Est-ce que vous pouvez vous-même vous améliorer? Est-ce qu'un cadavre s'améliore? Il y en a tellement qui le pensent, qui sont en train de renifler leur cadavre. Alors, quelle tête ils ont? C'est pas fin de renifler le cadavre. Abraham se leva de devant son mort. Levez-vous de devant votre cadavre. Admettez qu'ils sont enterrés, puis n'allez pas le déterrer pour voir si c'est amélioré, si c'est conservé. Ah oui, parce que si vous le trouviez conservé, vous penseriez que vous êtes un saint. Quand on retrouve un cadavre qui ne s'est pas décomposé, on le béatifie, puis on finit par le canoniser. C'est bon? Est-ce que vous pouvez vous changer? Est-ce que vous pouvez vous améliorer? Est-ce que vous avez encore cet espoir? Bien, nous apprenons qu'en nous, c'est-à-dire en notre chair, il n'habite pas de bien. Et que la conversion ne nous a pas changés. Est-ce qu'il y en a qui pensent avoir été changés par la conversion? On vous l'a prétendu peut-être. On vous a menti. Et voyez-vous, nous ne nous améliorons pas depuis notre conversion, quant à nous-mêmes. Et cette connaissance peut rendre un homme profondément malheureux. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont profondément malheureux. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne croient pas que Jésus est le Sauveur, mais parce qu'ils constatent que tout en ayant cru que Jésus était leur Sauveur, ça ne va pas. Et ils sont malheureux. Même si vous avez conscience du pardon de vos péchés, que vous croyez que Jésus vous a pardonné, vous êtes des gens malheureux. Avec votre foi, au pardon de vos péchés. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas saisi toute la vérité concernant le si grand salut que Dieu veut vous donner. C'est pas un petit salut, c'est pas juste le pardon de vos péchés pour qu'un jour vous puissiez être devant Dieu. Il veut faire de vous des témoins. Et pour que vous soyez des témoins, il faut que vous ne retombiez plus toujours dans les mêmes fautes. Il faut que vous soyez morts au péché, comme Christ est mort au péché. Il faut qu'il y ait identification complète de votre vie avec celle de Jésus. Quand Jésus est mort, vous aussi vous êtes mort. Quand Jésus est ressuscité, vous aussi vous êtes ressuscité en lui. Quand Jésus est monté dans la gloire, vous aussi vous avez été enlevé en lui dans la gloire. Et c'est là votre position, vous êtes assis en lui dans les lieux célestes. C'est pourquoi vous devriez connaître quelque chose, des choses d'en haut. Si vous vous êtes laissé entraîner par la puissance de la résurrection de Jésus, vous devriez pouvoir quelquefois regarder les choses de la terre depuis où? D'en haut. Et pas seulement lever les yeux vers le ciel, mais regarder la terre depuis en haut. Alors c'est une toute autre vision. Comme les difficultés paraissent petites quand on regarde depuis en haut. Tout paraît petit. Moi qui vais souvent dans les hauteurs par les voyages en avion, je me rends toujours compte combien tout cela s'estompe. Même nos Alpes. On est déçus. Mais vous avez aussi les Rocheuses au Canada. Je ne l'oublie pas. Est-ce que vous avez appris qu'en vous, c'est-à-dire en votre chair, il n'habitait point de bien? Voyez-vous, quand on a appris cela, c'est merveilleux. C'est merveilleux? C'est de l'espérance? Non. Cessez de mener deuil. Réjouissez-vous dans celui qui est vivant. La paix du croyant devient d'autant plus profonde et plus stable lorsqu'il apprend sur le chemin de l'expérience que non seulement Christ est mort pour lui, mais que lui est mort avec Christ et qu'il peut jouir de toutes les conséquences bénies de cette mort. Que de fois vous vous êtes dit: pour que je pêche plus, il faudrait que je sois mort. Ah oui. Vous aviez raison. Vous aviez raison. Vous voulez que je vous donne une corde? Il y en a là-haut. J'espère. Pour en finir, c'est pas beau les pendus. Tire la langue. Celui qui est mort est justifié du péché. C'est quand même ce côté-là qu'il faut aller pour être libéré. Le péché ne domine plus sur lui, dit l'Écriture, vous l'avez lu. Alors, à nous de vivre cette mort chaque jour. C'est ce que dit saint Paul. Moi, je meurs chaque jour, dit-il. Alors, dans ce chapitre 5, donc, du verset 12 au verset 21, vous avez un parallèle entre les suites de la chute d'Adam et les suites de la rédemption par Jésus-Christ. Un parallèle, donc, entre le péché et la grâce. Le péché et la mort procèdent d'Adam, la grâce et la vie viennent de Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Vous avez compris cela? Qui est cet homme? Voilà. Et que par le péché, la mort est entrée dans le monde. Parce que le Seigneur avait dit à Adam, en lui faisant une seule défense concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu en manges, tu mourras. Donc, il était averti. Il a transgressé le seul commandement que Dieu lui avait donné. Il n'y en avait qu'un. Il n'avait pas dit qu'il y en avait un. Il devait rester dans la dépendance de Dieu. Dieu voulait faire son éducation. Mais il a voulu lui-même devenir comme Dieu et choisir ce qui était bien et ce qui était mal. Et ce qu'il a dû réaliser, c'est qu'il était incapable de faire le bien. Mais qu'alors le mal, il pouvait le faire. La mort est entrée donc par le péché d'un seul homme. Et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendu à tous les hommes. Est-ce qu'il y a un homme qui vit qui ne verra pas la mort, dit l'Écriture? Vous en connaissez? Non. Parce que tous ont péché. La preuve que tous ont péché, si vous ne l'avez pas, c'est que les gens meurent. Même ceux que vous dites être des saints, ils meurent. Alors s'ils meurent, c'est qu'ils sont aussi des pécheurs. Parce qu'enfin, ils ne mourraient pas. Il n'y en a qu'un qui ne devait pas mourir. C'était qui? Jésus. Et il dit qu'il a le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre. S'il est mort, c'est qu'il l'a réellement voulu. C'est qu'il l'a donné. Et verset 13. Car jusqu'à la loi de Moïse, le péché était dans le monde. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui. Regardez ce qui se passait au déluge. Avant le déluge. La violence, la corruption étaient sur la terre. Mais évidemment, la vie continuait. On mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage. C'était la vie comme aujourd'hui. La société de consommation, c'était le grand mélange. Les filles de Dieu avec les filles des hommes, avec les fils de Dieu. Le mélange. Mais il est dit, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Le péché était là, mais au fond, il n'était pas encore imputé parce qu'il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas directement une transgression. Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Mais ensuite, Dieu a donné la loi. Cependant, la mort a régné donc depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui était une désobéissance, lequel est la figure de celui qui devait venir. Qui est-ce qui devait venir? Jésus. Mais Adam avait été créé à l'image de Dieu. Il aurait dû être cette image de Dieu. Mais hélas, il a écouté la voix du tentateur. Il a voulu devenir comme Dieu. Tandis que le Seigneur, qui était comme Dieu, lui, a revêtu notre humanité. Et il a pris le visage de l'homme.
Et il a été trouvé ici-bas en figure comme un homme. De sorte que Adam, qui avait une vocation, une mission, a fauté. Et pour réparer cette faute, Dieu lui-même s'est incarné en Christ, est venu vivre la vie qu'aurait dû avoir Adam. Quand vous contemplez la vie de Jésus, vous voyez ce que Dieu voulait pour un homme. C'était ça, la vie. La vie humaine, c'était la vie qu'a eue Jésus. L'homme rempli du Saint-Esprit, qui possédait l'Esprit sans mesure, comme nous voyons dans les évangiles. Alors, en Adam, vous voyez le chef d'une race, et puis en Jésus, le chef de la race nouvelle. Vous avez ce parallèle et qui est absolument remarquable. Parallèle entre Jésus et Adam, parallèle entre la grâce et le péché. Le péché et la mort procèdent d'Adam, la grâce et la vie viennent de Jésus-Christ. Alors verset 15, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Le don gratuit, c'est qui? C'est Jésus. Et l'offense, c'est ce qu'a fait Adam. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, vous comprenez ce que ça veut dire, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Sur qui les beaucoup? Ceux qui croient. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Il n'y a eu qu'une offense, hein? La transgression du commandement que Dieu avait donné à Adam. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Les offenses, non seulement d'Adam, mais de tous ceux qui sont sortis d'Adam, donc de l'humanité tout entière. Il y a salut pour l'humanité tout entière, mais ne seront sauvés réellement que ceux qui acceptent le moyen que Dieu donne, sa grâce. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, vous rendez compte, et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul? Alors, comment pouvez-vous encore vous dire que Dieu est injuste, qu'il n'y a pas de justice en Dieu? Regardez sa justice, regardez sa bonté, regardez sa miséricorde, regardez sa grâce. C'est quelque chose qui couvre tous les pécheurs. Il y a salut pour tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et vous ne le seriez pas? Si vous ne l'êtes pas, c'est parce que vous ne l'aurez pas voulu. Que de fois j'ai voulu, dit Jésus, rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous n'avez pas pu. Non, vous n'avez pas voulu. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme la désobéissance, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Vous êtes rendus justes par votre obéissance à vous? Par quelle obéissance? L'obéissance de Jésus. Alors contemplez l'obéissance de Jésus et vous verrez votre obéissance. L'obéissance du nouvel homme, c'est l'obéissance de Jésus.
n'est pas votre obéissance. C'est l'obéissance de Jésus. C'est ça qui est fantastique.
C'est lui qui essaie de par Dieu votre sagesse, votre justice, votre sanctification. Mais vous allez dire, oui, mais alors moi, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Mais tu as tout. Oui, mais moi, je voudrais avoir fait quelque chose. Ben, fais quelque chose. Vous les connaissez, ces gens qui font quelque chose? Qui veulent toujours faire quelque chose? Puis en voulant faire quelque chose, ils se cassent la figure. Puis finissent par le désespoir. Cessez de vouloir faire quelque chose et acceptez ce que le Seigneur a fait. C'est pas quelque chose qu'il a fait. Il s'est donné. Et c'est total le don du Seigneur. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Il fallait donc que sur la terre on apprenne à avoir l'horreur du péché. Et Dieu n'a pas donné la loi pour que les hommes ne pêchent plus, mais qu'ils se rendent compte dans quel état ils se trouvaient et ce qu'ils faisaient, qu'ils prennent conscience qu'il y a des choses qui ne se font pas, qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Et pourtant, la loi a manifesté que ces choses, on les faisait. On admettait que c'était bien de dire qu'il commettra adultère, mais on a réalisé qu'on le commettait. On réalisait bien qu'on ne devait pas tuer, c'était une chose bonne, mais on s'est mis à tuer. On a continué de tuer. On savait bien qu'il ne fallait pas convoiter, mais on a convoité. On savait bien qu'il ne fallait pas voler, et pourtant on a volé. Alors tout cela a été manifesté par la loi. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quand l'état du monde a été manifesté, tant chez les païens qui faisaient taire leur conscience et ne la suivaient pas, parce que Pilate était le représentant des païens, et sa conscience a crié très haut devant un certain homme, Jésus. J'ai le pouvoir de te relâcher, j'ai le pouvoir de te condamner. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut, dit Jésus, qui se soumet déjà. Et la conscience de Pilate lui dit que cet homme n'a commis aucun crime, et il le dit, il le proclame. Je ne trouve aucun crime en cet homme. Mais tout à coup, parce qu'il a peur, quand on lui a dit, si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César, le voilà qui a peur pour sa situation. Il fait taire sa conscience, il n'écoute pas la voix de sa femme qui lui avait écrit, n'ai rien à faire avec ce juste, et il prononce que Jésus soit crucifié, et lui, il lave les mains, le geste de Pilate. Voilà l'homme, guidé par sa conscience. Vous dites que Dieu est votre conscience? Que votre conscience vous conduit toujours? Vous la faites taire, votre conscience, quand ça vous chante, quand ça vous plaît. La conscience n'est pas un guide infaillible. La conscience vous dit bien ce que vous devriez faire, mais vous faites exactement le contraire. Vous n'écoutez pas cette petite voix, vous la faites taire. Alors le Seigneur voulait. Et puis les représentants de la loi qui ont vu en Jésus l'homme parfait, qui a rendu la loi grande et honorable, parce que il a accompli cette loi. Elle était dans son cœur. Ce n'était pas la lettre de la loi seulement pour lui, mais c'était cette vie de bien. Il était le bien même. Il était la bonté. Il ne parlait pas de la bonté. Il était bon. Il ne parlait pas seulement de la miséricorde. Il était miséricordieux. Il ne parlait pas seulement de la sainteté. Il était saint. Qui d'entre vous me convainc de péché, disait-il. Et tous avaient la bouche fermée. Il ne parlait pas seulement d'amour, il était amour. Et sa vie était l'expression de ce qu'est un amour pour Dieu quand il parlait de son Père. Quel amour! Un amour pour les hommes quand il parlait du prochain. Il était l'incarnation de l'amour. Et la grâce a surabondé. à ce moment-là où Pilate, l'homme de la conscience, et les Juifs, les hommes de la loi, se sont associés pour commettre le plus grand des crimes sur la terre, l'assassinat de Dieu. Si l'homme peut le faire, il tuera Dieu. Et il l'a manifesté. Et vous voudriez croire encore que l'homme est capable de faire quelque bien ? La mesure de la méchanceté de l'homme a été manifestée à la croix, il y a bientôt 2000 ans. Et maintenant, nous arrivons à l'apogée de la civilisation. Et qu'est-ce que vous voyez au jour où l'homme marche sur la lune ? C'est la violence, c'est la corruption. Et la vie continue, mais nous sommes comme au jour de Noé, comme Jésus l'a dit, quand je reviendrai. Il en sera comme au temps de Noé, quand je reviendrai, il en sera comme au jour de Lot. C'est la vie de Sodome dans nos villes et dans nos villages. Mais la vie continue. Oui, la grâce a surabondé et surabonde encore aujourd'hui pour ceux qui le veulent, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Le salut, il est encore là. La grâce pourrait régner dans ce monde par la justice. Mais qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que c'est la justice qui règne ? Non, parce qu'on ne connaît pas la grâce de Dieu, parce qu'on ne vit pas en relation avec Dieu. On prétend qu'on croit en Dieu, mais on ne le suit pas. Est-ce qu'on peut faire encore le chapitre 6 ? Ça sera court, mais peut-être que vous voulez vous lever pour vous détendre, et puis on prendra. Alors nous arrivons à notre chapitre 6. Et dans ce chapitre, le Saint-Esprit conduit l'apôtre à répondre à quelques objections que la chair et l'incrédulité soulèvent en présence de la grâce de Dieu. Et il y a deux objections. Alors, si c'est comme ça que la grâce est si merveilleuse, il y en a qui diront, eh bien, on peut demeurer dans le péché. Alors, la question est ceci, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que c'est ça la déduction que vous allez faire de l'enseignement de Paul? C'est ce que Paul a voulu dire? Puis la seconde objection, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Et maintenant, puisque nous ne sommes plus sous la loi, puisqu'on comprend bien que ce n'est pas la loi qui pouvait nous sauver, donc nous ne sommes plus sous la loi, on nous dit que nous sommes sous la grâce, eh bien, est-ce que nous allons nous mettre à pécher, puisque nous ne sommes plus sous la loi? On peut faire tout ce qu'on veut. Bien, mes amis, je dirais que ces objections-là nous montre les abîmes du cœur humain, qu'on puisse en arriver à penser des choses pareilles. Ça me montre les abîmes de mon cœur. Je sais maintenant que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, que Dieu n'a pas passé l'éponge quand il a vu les péchés sur son fils. Il n'a pas dit, oui, mais ça c'est mon fils. Hein. Non. Son fils qui a voulu réellement pardonner les péchés et qui les a pris à son compte, il a dû payer. Et Dieu n'a pas dit, oh bien, on fera un arrangement puisque c'est toi. Pas du tout. Le salaire du péché, c'était la mort. Et qui a subi cette mort? Jésus. Qui a subi le jugement? Jésus. Alors vous comprenez bien pourquoi maintenant Dieu est juste en justifiant ceux qui ont la foi de Jésus. Parce que le péché qui était sur nous, Jésus l'a pris. La mort que nous devions subir, Jésus l'a subi. Il a subi notre jugement. Mais quand je comprends par quelle souffrance Jésus a dû passer, quand je vis l'agonie de Gethsémané, comment Jésus, qui a toujours accompli la volonté de son Père, en arrive à voir qu'il va porter tous les péchés du monde. Et dans la liste des péchés du monde, vous pouvez voir toutes les turpitudes qui se passent dans le monde. Vous vous souvenez de la liste dans le chapitre 1er? Pour qu'un homosexuel, pour qu'une lesbienne, pour que tous les injustes, tous les criminels du monde puissent être sauvés, pour que tous ceux qui commettent des infamies dans les ténèbres puissent être pardonnés, il a fallu que Jésus soit identifié à tous ses péchés. Et il a souffert dans toutes les fibres de son être. Lui qui était la sainteté même, il allait être la souillure sur la croix. Il allait être ses péchés pour nous. Est-ce que vous avez déjà eu cette révélation de ce que ça a été à la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas reculé. Il n'a pas employé sa puissance pour se déclouer. Il est allé jusqu'à la mort. Il a tout souffert. Couronné d'épines, exposé au regard impudique de la foule qui passe et repasse. Il a sauvé les autres. Qui se sauve lui-même s'il est le Fils de Dieu? Puis tout à coup, la nature ne peut plus voir un tel tableau. La nature se voile la face, ce sont les ténèbres à midi. Et jusqu'à la 9e heure, le Seigneur est dans les ténèbres. Il semble que la création ne peut plus voir un tel tableau, son Créateur pendu à la croix. Et tout à coup, les rochers se fendent, les sépulcres s'ouvrent. Quand, après avoir poussé un grand cri, Jésus a expiré, le voile du temple de Jérusalem qui séparait le lieu saint du lieu très saint, se déchire. Et nous, nos cœurs ne se déchirent pas. Les rochers se fendent, les sépulcres s'ouvrent, et notre cœur reste fermé. Quelle dureté! Et le voile ne se déchire pas. Quand j'ai compris dans quel abîme de souffrance le Seigneur avait dû descendre à cause de l'abîme de mon péché, j'ai connu alors l'abîme de son amour. Un abîme appelait un autre abîme. L'abîme de mon péché a appelé l'abîme de ses souffrances. Mais l'abîme de mon péché, l'abîme de ses souffrances, il les a encore englouties dans l'abîme de son amour. On ne peut pas aller plus bas. Il m'a aimé quand j'étais un impie. Alors, vous voyez la force que je peux avoir quand je suis auprès d'un mourant ou quand je suis auprès d'un homme qui est accablé par ses péchés. Je peux lui dire, il a payé pour toi. L'autorité que cela peut nous donner de savoir que réellement le Christ a souffert dans toutes les parties de son être pour expier les péchés du monde. Mais si je sais ce que le péché a coûté à mon Sauveur, est-ce que je peux maintenant continuer de pécher? Est-ce que vous n'aurez pas l'horreur du péché? Il n'y a qu'un lieu qui vous donne l'horreur du péché. Ce n'est pas votre télévision. La télévision, elle met l'abomination devant vos yeux. Elle vous habitue au péché. C'est le péché sous les fleurs. Et elle vous remplit de péché. Et vous continuez de voir ces spectacles. En pouvant dire, on peut tout voir. Parce qu'il y a quelques émissions évangéliques. On a amené le monde sous notre toit. Et on voudrait la plénitude du Saint-Esprit, mais on fait des guérisons à la télévision. Touchez le poste. Moi, j'ai prié pour vous. Au moment où vous toucherez, vous sentirez le contact. Misère! Oh, mais vous donnerez des dons pour soutenir ces émissions. Ce n'est pas comptabilisé dans le ciel. Ça ne produira pas un trésor dans le ciel. Ce trafic des choses saintes. Oh, vous direz, ben, c'est un arrière et il est contre la télévision. Je me suis fait dire à 10 000 mètres d'altitude. Par la grande programmatrice des émissions de télévision de Toronto, qui était dans le même avion que moi, allant à Paris et ensuite à Nice pour le festival du cinéma. Puis on a eu un entretien. Quand elle a su que je n'avais pas de télévision, elle était en rage. Humiliée d'être à côté d'un retardé.
Ça fait rien. Quand on met les abominations sous nos yeux, est-ce qu'on peut avoir de bonnes pensées? Vous vous préparez aux chutes, puis après vous êtes étonné. Vous voulez qu'il y ait des miracles. Je ne vous dis pas que la télévision n'est pas une merveilleuse invention, et que pendant le règne, quand ce sera le Seigneur qui fera les programmes, ce sera beau. Pourquoi est-ce que les gens ont tellement de peine à lire aussi? Vous savez pourquoi? Parce que la télévision enlève la lecture. On n'a plus de temps de lire. On est tout le temps là. Alors, il n'y a pas de miracle. Et c'est pas que moi, parce que je suis un enfant de Dieu, qui dit ces choses. Ce sont des gens bien pensants dans le monde qui constatent. C'est fait. Alors oui, continuez. Que le Seigneur nous parle. Alors vous me direz, mais on a des films à la télévision. On voit même Jésus, la crucifixion de Jésus, par des acteurs. Pas besoin de voir un film pour savoir ce que c'est que la croix. Placez-vous devant l'Écriture. Lisez à haute voix les paroles de Jésus à Gethsémané. Écoutez les sept paroles de la croix. Et alors, vous saurez ce que c'est que le calvaire. Et vous aurez l'horreur du péché. C'est là que Dieu constate l'amour qu'il a eu pour nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, nous étions des impies. Alors verset 1 à 11, au moyen de la justification par la foi, l'homme entre nécessairement dans la voie de la sanctification, parce que notre foi en Christ nous unit à Christ. Et reproduit en nous la vie du Christ. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Jésus, lui, est le premier qui est mort au péché. Et il ne meurt plus. Fini. Alors nous aussi, puisque sa vie se réalise en nous, nous sommes morts au péché. Et l'apôtre parle bien à des baptisés, à des gens qui ont été baptisés, de ce baptême d'eau qui se faisait dans l'Église primitive par une immersion totale, qui représentait l'ensevelissement du Christ. Comme Christ est mort, a été enseveli, le néophyte confessait publiquement qu'à sa vie passée, il renonçait et qu'il était enseveli dans la mort du Christ et ressuscité en lui. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voilà le vrai sens du baptême. Nous reconnaissons que dans la mort du Christ, notre vie à nous aussi a pris fin. Et c'est que par ce moyen-là que nous pourrons naître de nouveau. Il n'est pas question pour naître de nouveau de rentrer dans le sein de sa mère et de naître. Il est question d'abord de mourir pour renaître. Si le grain de blé tombant en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Le baptême donc signifie que nous avons accepté que nous n'étions sauvés que par la mort de Jésus. Si vous avez pensé jusqu'à présent que vous pouviez être sauvé simplement par la vie de Jésus,
La vie de Jésus n'a sauvé personne. Qu'est-ce qui a sauvé les hommes? C'est sa mort. Mais alors, la vie de Jésus va devenir notre vie. Une fois que nous avons consenti à mourir en lui. Il ressuscite et sa vie deviendra notre vie. Mais si vous n'avez pas consenti à mourir avec lui, si vous n'avez pas reconnu qu'il n'y avait rien à faire avec vous, parce que quand on meurt, c'est qu'on n'a plus rien à faire. Hein. Alors, quand on décide de se suicider, c'est que vraiment, c'est total. Hein. Il n'y a plus rien à faire, on ne s'en sortira pas. Eh bien, il faut en arriver là. Il faut que vous compreniez que vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors vous acceptez la mort de Jésus. Ce n'est pas glorieux pour nous. Mais c'est ça, la vérité. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est cette vérité-là qui nous donne le salut dans la marche. Vous avez le salut de vos fautes, Christ est mort pour vos fautes, c'est un aspect de sa mort. Mais maintenant, vous désirez ne plus vivre dans ces péchés qui caractérisait votre ancienne manière de vivre. Vous voudriez connaître une nouvelle manière de vivre. Alors, lisez plus loin. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, c'est-à-dire en acceptant que comme il est mort, nous aussi, nous sommes morts, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si Jésus est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités. Lui nous prend avec lui dans sa mort. Il dit, je suis venu pour rendre possible ta mort. C'est vrai que tu dis, que tu, pour ne plus pécher, il faudrait que tu sois mort. Eh bien, tu ne peux pas te suicider, mais moi je te prends. Accepte de mourir en moi. Alors, nous nous donnons à lui. Nous sommes morts avec lui. Il s'est identifié à nous pour pouvoir mourir, parce qu'en fait, il ne serait pas mort. Si le Christ est mort, c'est parce qu'il nous avait pris, nous, pécheurs. Et s'il a été frappé, c'est parce que nous étions en lui, de sorte que vous avez pris fin devant Dieu. En tant que pécheur, vous n'existez plus devant Dieu. Est-ce que vous avez saisi cette vérité? Aux yeux de Dieu, vous n'avez plus d'existence propre comme pécheur. Christ est mort, vous êtes mort en lui. Dieu ne vous voit plus comme pécheur. Comment vous voit-il? Dans le Christ. Il vous voit dans les perfections et dans l'excellence de son Fils. Toutes les perfections de son Fils sont vos perfections. Vous êtes ce qu'il est. Aux yeux de Dieu, vous êtes ce qu'il est. Mais c'est ça qui devrait vous bouleverser. Vous êtes réellement ce que le Fils est. Vous avez été rendu agréable dans le bien-aimé. Sans ça, Dieu ne pourrait pas vous supporter. Mais il vous voit maintenant dans les perfections de son Fils. Alors, si vous voulez vous regarder vous-même, pour savoir ce que vous êtes, qui devait vous regarder? Jésus. Mais si vous vous regardez devant la glace, devant le miroir, c'est pas beau. Puis demain, ça sera encore moins beau. Puis après-demain, ça sera pire. Malgré que vous croyez toujours que c'est pas pire. Hein? Non, c'est pire. Alors, finissez de vous regarder dans votre miroir. Et regardez dans le vrai miroir, le Christ. C'est lui qui est votre. Christ est ma vie, dit saint Paul. En dehors de ça, il n'a pas dit, votre vraie vie, elle est cachée où? Dans le Christ, en Dieu. Votre vraie vie, c'est pas celle que vous voyez quand vous vous contemplez, quand vous êtes devant votre cadavre. Cette vie de cadavre, laissez-la à la croix. Reconnaissez que c'était vrai, que vous ne pouviez pas vous améliorer. Et maintenant, dites dans la joie du Saint-Esprit, il est ma vie. Et si vous voulez regarder ce que vous êtes, regardez-le lui. Et c'est comme ça que vous réaliserez Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous avons ce trésor dans un vase de terre. Alors, ne regardez pas l'enveloppe, ne regardez pas le vase, regardez le trésor. Mais comme je le disais l'autre jour, il y en a qui aiment bien regarder l'enveloppe, plutôt que de l'ouvrir et de voir la lettre. Les collectionneurs de timbres, les timbrés spirituels, Mais ne vous arrêtez pas à l'enveloppe et à l'écriture de l'enveloppe. Regardez ce qu'elle contient. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et quant à votre vraie vie, elle est cachée dans le Christ en Dieu. Et alors, quand est-ce que le monde la verra dans sa perfection? Quand le Christ reviendra. Lui qui est votre vie, vous manifestera lui aussi avec lui en gloire. Et ce sera lui qui vous présentera au monde. Alors maintenant, qui devons-nous présenter, nous? Le Seigneur. Non pas nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas beaux. Vilain pas beau. Mais, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Il n'est pas dit nous nous transformons. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas une pénible transformation par nos efforts. C'est une transformation par cette contemplation du Christ. Parce que le Christ est devenu l'objet des affections de notre cœur. Mais c'est là que je vous pose la question. Est-ce que vous l'aimez, ce Seigneur qui vous a aimé le premier? Est-ce qu'il est devenu cher à vos cœurs? Parce que vous avez compris combien il vous a aimé pour pouvoir tout souffrir. Parce que pour souffrir comme il a souffert, il faut l'amour. Sachant maintenant que votre vieil homme, c'est-à-dire votre ancienne manière de vivre, avant la conversion, votre vieil homme a été crucifié avec lui, vous le croyez? Ce n'est pas une question de le sentir. Vous ne sentez pas que Jésus a porté vos péchés, mais vous le croyez parce qu'il vous le dit. Mais vous ne sentez pas que vous êtes crucifié, mais vous le croyez parce qu'il vous le dit. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est cela que le Seigneur veut. Car celui qui est mort est libre du péché, c'est vrai. Une fois mort, il est libre du péché. C'est fini. Il ne pêche plus. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Il n'y a pas que l'aspect négatif. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car s'il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Pour qui devons-nous vivre maintenant? Pour Dieu. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, c'est cela, c'est ce regard. Regardez-vous, admettez que vous êtes mort. Mais vous me dites, mais moi je ne sens pas tout ça. Ce n'est pas une affaire de le sentir, vous ne le sentirez jamais. Vous croyez qu'on sent qu'on est mort? Allez leur demander. Ils vous répondront. Tu sens que t'es mort? Tu as la sensation d'être mort? Pas ça. Il est mort. Alors je crois. Regardez-vous comme vivant en Christ. Que le péché donc ne règne pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. L'iniquité, c'est la transgression de la loi. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Mais est-ce que vous avez compris que Dieu ne vous demande pas seulement votre âme pour avoir un petit salut de l'âme, mais il vous demande votre corps, parce que c'est avec les membres de notre corps que nous péchons. Et c'est le salut du corps que le Seigneur veut aussi. Notre témoignage, nous le rendons dans notre corps. Le corps, c'est la partie visible de notre être. Et c'est cette partie-là que le monde voit. Vous dites, oh mais moi j'ai un salut intérieur, j'ai le salut de mon âme, c'est Dieu qui le sait. Puis je vis. Oh la chair, mais sérieux, la chair, mais je suis sauvé. Mais la chair, c'est de la viande. La viande de bouc. Oui. C'est ça. Notre chair, livrez votre corps. Livrez vos membres. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, c'est Dieu qui le dit. Puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est là que tout est différent. Parce que
C'est parce qu'on aime qu'on fait les choses. C'est parce qu'on est possédé par ce grand amour, lui qui nous a aimé le premier. Alors, quoi donc? Puisqu'on est sous la grâce, et qu'on vit de cette grâce, est-ce que nous pécherions parce que nous sommes sous la grâce? Alors, les versets 12 à 23, vous avez cette exhortation à la sainteté de la vie. La sanctification doit se poursuivre par une entière consécration de notre vie au Seigneur. C'est pourquoi j'ai peur de certaines réunions d'évangélisation où on vous distribue un espèce de salut gratuit sans vous montrer ce que c'est que le salut. On vous donne un petit diplôme de conversion. Puis on vous dit vous êtes des sauvés. C'est sauvé. Puis voilà, alors ces sauvés continuent de vivre comme avant. Puis après, ils doutent de leur salut. Ils sont malheureux. Puis on les a vaccinés contre une vraie nouvelle naissance. Parce qu'on n'a pas apporté tout le conseil de Dieu. Puis on a voulu faire vite pour qu'on puisse dire que notre mission a rapporté beaucoup. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes l'esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Qu'est-ce que le Seigneur disait ? Il ne disait pas « renonce à ceci, renonce à cela ». Qu'est-ce qu'il disait ? Renonce à toi-même. C'est ça la délivrance. Et il est question non pas de renoncer à des choses, mais de renoncer à soi. Et quand nous avons renoncé à nous, et que nous y renonçons chaque jour, c'est lui que nous saisissons. Nous saisissons la vie éternelle, qui est notre vraie vie, qui est le Christ. Et tant que je n'ai pas renoncé à moi, j'emploie moi-même les membres de mon corps, mes yeux, mes oreilles, ma bouche, ma langue, mes mains, mes pieds, enfin, tous mes organes, je les emploie moi-même, j'en ai la disposition. Et puis, j'emploie ça, pourquoi ? Si c'est moi, pour le péché. Je pêche avec mes yeux, je pêche avec mes oreilles, je pêche avec ma langue. Je pêche avec mes pieds en allant où je ne devrais pas me trouver. Je pêche avec mes mains en faisant des actions que je ne devrais pas faire. Je pêche avec mon cœur parce que ce n'est pas le Seigneur qui le remplit. Mais quand je livre maintenant mes mains, mes pieds, mes yeux, ma tête, mon cœur au Seigneur, quand je lui livre maintenant mes membres, eh bien c'est lui qui en prend possession et le Seigneur continuera son incarnation par vos vies. Dieu a encore besoin de vous, mais de l'homme tout entier. Pas simplement de gens qui savent qu'ils sont sauvés ou qui jouissent de leur salut, mais qui disent au Seigneur, emploie-moi, me voici. Mais me voici dans la totalité de mon être, esprit, âme et corps. Fais de moi ce que tu veux. Le Père dans notre esprit invisible pour animer nos pensées, le Fils dans notre âme, dans tout ce qui caractérise notre nouveau moi, et puis le Saint-Esprit dans notre corps. Vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et alors, ses yeux, le Seigneur les emploie. Il regarde par vos yeux, il écoute par vos oreilles, il parle par votre langue, il serre par vos mains, il se déplace par vos pieds, il aime par votre corps, par votre cœur. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Mais quel fruit portiez-vous alors ? des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Et on le sait. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. La sainteté, c'est un fruit. C'est pas une œuvre à laquelle on arrive. C'est un fruit. La sainteté, c'est une conséquence. Et puis pour fin, qu'est-ce que vous aurez ? La vie éternelle. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien, que le Seigneur, lui-même, par son esprit, vous rappelle ces vérités. Je ne vais pas m'excuser d'avoir été jusqu'à midi puisqu'il pleuvait. Et puis, puisque vous n'avez pas eu de réunion hier soir, eh bien, je pense que ce matin, le Seigneur voulait nous dire ce qu'il ne pouvait pas encore nous dire hier. Nous l'ont prié. Demain, si le Seigneur nous donne d'être encore là, nous verrons le rôle alors de la loi et notre affranchissement de la loi. Aujourd'hui, c'était notre affranchissement du péché. Par notre foi en sa mort, dont le baptême est une image. C'est pas le baptême qui fait la chose, c'est ce que Christ a fait à la croix. Mais le baptême est le signe que nous avons cru ce qui s'est passé à la croix. Que Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais qu'il est mort pour nous donner la possibilité de mourir nous-mêmes. Mort au péché. Père, que ces vérités que nous venons de considérer ne restent plus entre les couvertures de la Bible, que ce ne soit plus les vérités de l'Épître aux Romains, mais que réellement nous puissions vivre cette identification au Christ dans sa mort et sa résurrection, comme le signifie le baptême, qui n'est pas l'effacement de la tâche originelle, mais qui est notre identification pour que nous mourions en lui, pour que ce ne soit plus nous qui vivions, mais lui qui vit en nous. Ô Dieu, donne-nous de croire que tu ne nous vois plus dans nos péchés, que c'est fini, mais que tu nous vois dans les perfections du Christ, et que cela nous rassure, que cela nous ranime, que cela nous donne la santé spirituelle, que nous puissions, ô Père, nous voir comme tu nous vois, afin qu'il y ait cette douce relation de l'enfant avec le Père, parce qu'il est en communion avec son Père, alors il est heureux. Père, au cœur de mère, nous te bénissons pour ton don gratuit, qui est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.